Eh bien, bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très joyeux sabbat. À l'approche de la période de la Pâque et de la fête des pains sans levain, nous examinons nos relations avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas inutile non plus de considérer un peu nos rapports avec son Église, car c'est à travers son Église que Jésus-Christ travaille avec nous, en plus d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu pour travailler en nous individuellement. Il travaille avec nous, il nous forme à travers l'activité de son Église. Voilà pourquoi je voudrais considérer nos rapports avec l'Église de Dieu aujourd'hui pour regarder ce que l'Église doit faire selon Dieu, ce que l'Église doit faire dans nos vies, mais aussi des choses que l'Église ne peut pas faire dans nos vies. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit: Moi, je te dis, en parlant à Pierre, que tu es Pierre, le mot veut dire un petit caillou, et que sur ce roc, là, le mot est différent, ça veut dire un rocher massif, il parlait de lui-même. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Si l'église de Dieu existe aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ l'a bâtie. Et il a décidé de travailler à travers cette Église dans les vies de ses membres. Il aurait pu organiser des choses autrement, mais il a choisi particulièrement de fonder l'Église. Et nous voyons à travers le Nouveau Testament différentes responsabilités qu'il a données à l'Église et que l'Église doit accomplir dans nos vies, nous autres frères et sœurs dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de regarder plusieurs points que la Bible donne, qui illustrent ce que l'Église doit accomplir dans nos vies, mais aussi certaines choses que l'Église ne peut pas faire à notre place et que nous devons faire nous-mêmes. Alors, commençons par ce que Dieu veut que son Église accomplisse dans nos vies. C'est Dieu qui a décidé cela. Ce n'est pas nous, ce n'est pas des êtres humains qui ont dit « Écoutez, on va s'assembler, on va former un groupe et puis on va travailler ensemble. » C'est Dieu qui a déterminé qu'il y aurait son Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il dirige ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Et donc, nous devons permettre à l'Église d'accomplir ses fonctions que Dieu lui a données, lui a accordées. Première chose que l'Église doit faire pour nous. L'Église organise nos activités collectives et notre culte. L'Église organise nos activités collectives et notre culte. Quand il y a plusieurs personnes qui doivent se mettre ensemble pour faire des choses ensemble, il faut qu'il y ait un organisme ou des personnes qui puissent prendre les décisions et déterminer à quelle heure, à tel endroit, etc. L'Église organise nos activités collectives et notre culte. Regardons Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, versets 1 et 2. Lévitique chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, voici quelles sont mes fêtes. » Nous sommes convoqués en tant que personnes qui obéissent à Dieu, nous sommes convoqués de participer à cette sainte convocation le jour du sabbat. Notons aussi au verset 2 que Dieu dit que vous publierez. Il a conféré aux êtres humains, à ses serviteurs, aux lévites, le soin, la responsabilité de publier à quel moment auraient lieu les assemblées, quand auraient lieu les saintes convocations. C'était aux êtres humains de décider, bon, on va le faire à 14h ou 14h30 ou 15h, ou on va le faire le matin et l'après-midi. Dieu a confié cette responsabilité à ses serviteurs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le ministère a la responsabilité d'organiser nos activités communes, nos cultes. Le ministère prend soin de jauger ce qui serait le mieux pour l'ensemble des personnes et décide de faire l'assemblée le matin ou l'après-midi, le jour du sabbat, et pour les jours de fête également. Évidemment, certaines personnes préféreraient parfois que ce soit autrement. Moi, je préfère faire la grâce matinée, je veux que l'assemblée soit l'après-midi. Mais ça dépend de savoir quand la salle est disponible, quand c'est le mieux pour la plupart des gens. Et parfois, comme c'est le cas dans la plupart de nos assemblées aux États-Unis, par exemple, le pasteur aura une assemblée le matin et une autre l'après-midi. Pour pouvoir servir tout le monde, il faut qu'il voyage entre ces deux assemblées. Obligatoirement, il y aura une assemblée le matin et une autre l'après-midi. Parfois, on a des préférences différentes. Moi, je préfère que ce soit le matin, moi, je préfère que ce soit l'après-midi, etc. Mais le ministère doit prendre la décision pour le mieux, pour le bien-être du plus grand nombre. Le ministère prend cela très au sérieux, cette responsabilité de publier les saintes convocations. C'est ce que l'Église fait pour nous. L'Église décide où nous allons célébrer la fête des tabernacles et où seront nos assemblées pour les autres fêtes de l'Éternel. S'il y aura des études bibliques, s'il y aura un club des orateurs, etc. Tout ce que nous faisons ensemble en tant qu'Église, cela est confié à l'Église à travers son ministère de prendre ses décisions en notre nom à nous tous. Et nous devons accepter. Notre responsabilité, c'est d'accepter et de coopérer avec les décisions qui sont prises au nom de l'Église. Donc ça, c'est une première chose que l'Église fait pour nous et que nous devons permettre à l'Église de faire, d'organiser nos activités collectives, d'organiser nos assemblées de culte. Deuxième chose que l'Église fait pour nous, l'Église nous fournit un soutien doctrinal. L'Église nous fournit un soutien doctrinal. Regardons 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. 1 Timothée chapitre 3, commençons au verset 14 pour ne pas couper la phrase en deux. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. L'Église nous enseigne la vérité à travers le ministère et ceux qui sont désignés pour donner des sermonnettes et des sermons sous l'autorité du ministère. L'Église nous enseigne et la colonne est l'appui de la vérité. Nous aide à discerner, à distinguer entre le vrai et le faux. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans le monde. Et c'est l'Église qui nous aide à voir clair dans tout cela. Jésus-Christ inspire ses serviteurs, ses co-bergers, pour être la colonne et l'appui de la vérité, pour nous aider à voir clair dans cela. Regardons ici Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14. En parlant de l'Église, l'organisation de l'Église, la structure qui existe, Paul dit au verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. » Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il dirige ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tout se passe parfaitement dans l'Église, puisque l'Église, même le ministère, est composé d'êtres humains qui sont faillibles, qui ne sont pas parfaits. Et Dieu travaille à travers des personnes qui ne sont pas parfaites, mais cela n'empêche que c'est lui qui est le chef. Il détermine comment les choses se passent. Nous ne voulons pas être des enfants flottants et emportés par des vents de doctrine. Il y a des vents de doctrine dans le monde. Les vents de doctrine passent parfois à travers les associations de l'Église de Dieu qui ne sont pas toujours correctes, qui ne sont pas toujours justes. Et l'Église nous aide dans cela pour que nous puissions ne plus être des enfants, mais grandir pour être mûrs spirituellement. Donc l'Église nous fournit un soutien doctrinal, la colonne et l'appui de la vérité. Troisièmement, l'Église nous fournit une instruction spirituelle qui va au-delà des doctrines, puisqu'il y a autre chose à apprendre. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Nous commençons verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est une qualification nécessaire pour le ministère, c'est d'être capable d'enseigner, capable de fournir une instruction spirituelle. Et quand nous nous assemblons, ou quand nous regardons ou écoutons des sermons qui sont enregistrés ou qui sont en personne, nous recevons une instruction spirituelle. Et cela nous aide à grandir. C'est nécessaire à notre éducation spirituelle. L'Église nous fournit une instruction spirituelle par les articles dans Discerner, par les articles qui sont sur Vie, Espoir et Vérité, et par les messages, les sermonnettes et les sermons que nous entendons, que nous écoutons et que nous étudions. Nous avons besoin de cette instruction spirituelle. Et encore une fois, c'est Dieu qui a décidé que les choses se feraient de cette manière-là. Ce n'était pas l'idée d'un homme, « Tiens, je vais me mettre à enseigner aux autres ». C'est Dieu qui a déterminé que ça serait comme ça au sein de son Église. Quatrième chose que l'Église fait pour nous et que nous devons permettre à l'Église de faire dans nos vies, elle nous fortifie spirituellement. Elle nous rend plus forts spirituellement par ses activités. Actes chapitre 15, verset 41. Actes chapitre 15. Chapitre 15, verset 41. Il est question ici de Paul et Silas. Et c'est marqué au verset 41 d'Actes chapitre 15. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Fortifier, rendre plus fort. Par notre participation dans les activités de l'Église, nous devenons plus forts spirituellement. C'est une fonction de l'Église. Et pour ceux qui, et il y en a dans la grande famille de l'Église de Dieu, ou ceux qui faisaient partie de l'Église de Dieu dans le passé, ils disent « j'ai pas besoin de ça. Moi, ma Bible, Dieu, ça suffit. » Ah, mais c'est pas comme ça que Dieu a désigné les choses. C'est pas comme ça qu'il a organisé les choses. Il a prévu que l'Église nous fortifie spirituellement. Tournons la page également dans Actes chapitre 16, verset 5. « Les églises se fortifiaient dans la foi » et augmenter en nombre de jour en jour. Les églises se fortifiaient dans la foi. Notre foi devient plus ferme à travers notre contact et notre participation à l'Église. L'Église nous fortifie spirituellement. Nous devenons plus forts à cause de notre participation dans la vie de l'Église. Cinquième chose. Que l'Église doit faire dans nos vies. Elle nous réconforte et elle nous encourage. Elle nous réconforte et nous encourage. Nous sommes déjà dans le livre des Actes. Regardons chapitre 14, verset 27. Actes chapitre 14, verset 27, c'est le retour à leur Église mère, on va dire, leur QG, après une longue voyage de proclamer l'Évangile. Le verset 27 dit, « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. » Donc, ils ont partagé avec l'Église tout ce que Dieu a accompli. Et on peut imaginer qu'ils étaient très joyeux d'entendre, d'apprendre ce que Dieu avait fait à travers les païens dans d'autres endroits. De la même manière, dans Actes chapitre 15, verset 3, nous lisons, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Les nouvelles que nous recevons de l'œuvre de l'Église dans d'autres endroits dans le monde nous encouragent, nous rendent joyeux. C'est formidable d'entendre les histoires de comment Dieu ouvre l'esprit d'autres personnes à sa vérité. C'est réconfortant, c'est encourageant. Et nous recevons cet encouragement à travers l'activité de l'Église. C'est une fonction que l'Église doit fournir pour nous. Elle nous réconforte et elle nous encourage. Et nous devons permettre à cela. Nous devons participer activement pour que nous puissions être encouragés et réconfortés. Là, c'est une cinquième chose que l'Église fait pour nous et que nous devons permettre à l'Église de faire. Sixièmement, l'Église fournit une protection spirituelle à travers le ministère. L'Église fournit une protection spirituelle à travers le ministère. Toujours dans le livre des Actes, regardons Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Ici, c'est Paul qui parle à d'autres anciens, d'autres ministres dans l'Église. Et au verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Ça a toujours été le cas dans l'Église de Dieu. C'est parfois le cas encore aujourd'hui. Et Paul a dit aux anciens qui étaient là sur place, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'Église de Dieu. » Le ministère a reçu la responsabilité au sein de l'Église de protéger par les enseignements saints, le troupeau de Dieu. Encore une fois, nous notons ici que ce n'est pas les hommes qui ont décidé, « Tiens, je t'établis ici ou je m'établis là-bas. » C'est le Saint-Esprit qui a établi les bergers pour la protection et pour la croissance du troupeau, des brebis dans le pâturage de l'Éternel. L'Église établit des ministres pour la protection du troupeau de Dieu. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, verset 5. Il est question ici des qualifications d'être évêque, ministre, ordonné dans l'Église. Le verset 6 dit, « Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Et puis le verset 5, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» C'est une fonction du ministère de prendre soin de l'Église. Et nous devons permettre à cela. Nous devons permettre à l'Église de prendre soin de nous. Il y a parfois des gens qui disent, non, j'ai pas besoin. Je m'occupe moi-même de moi. Plus besoin de personne. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que le ministère a été établi pour cette fonction-là. L'Église existe pour cela. Et nous devons accepter ce que Dieu a mis en place. C'est Dieu qui a décidé que les choses devraient être comme cela. Comment est-ce que l'Église offre une protection spirituelle? Par l'enseignement qui est donné, d'être bien fondé dans la doctrine, nous avons déjà parlé de ça. Parfois, c'est rare, mais parfois on doit écarter quelqu'un pour la protection de l'Assemblée, pour dire il faut que ce problème se règle avant que vous ne puissiez revenir au sein de l'Église. Ça aussi, c'est une protection. Parfois, c'est une protection pour la personne. Vous devez régler ce problème parce que ça risque de vous détruire, en fin de compte, si vous ne réglez pas ce problème. Et c'est aussi une protection pour l'Église, pour assurer que nous puissions fonctionner correctement. être encouragés et protégés dans nos activités et dans nos assemblées. Prendre soin de l'Église. L'Église nous fournit une protection spirituelle à travers le ministère. Septième chose que l'Église fait pour nous, elle offre l'onction et des prières. Nous faisons régulièrement des demandes de prières pour les frères et sœurs, et quand on est malade, la Bible nous dit que nous pouvons demander une onction. Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dieu œuvre à travers des êtres humains faillibles, c'est la seule sorte qui existe, pas parfait. Mais Dieu a choisi de travailler à travers des êtres humains. C'est une des raisons pour lesquelles il existe l'imposition des mains. L'onction, nous devons aller vers certains hommes qui ont reçu la responsabilité d'accomplir cette tâche. Ce n'est pas la tâche de tout le monde, ce sont ceux que Dieu a choisis pour rendre ses services au nom de l'Église. Nous pouvons donc, et nous devrions, quand nous sommes malades, demander aux anciens de l'Église de prier pour nous avec l'onction d'huile, et Dieu dit qu'il exaucera ses prières. Il interviendra pour faire en sorte que nous puissions guérir, ou du moins que sa volonté puisse s'accomplir pour nous. Donc ça, c'est une septième fonction de l'Église dans nos vies, de nous offrir la prière et une onction quand nous sommes malades. Et finalement, huitième chose que l'Église accomplit dans la vie de ses membres, l'Église offre une aide physique et de la solidarité. Une aide physique et de la solidarité. Quand il n'y a plus d'autres sources d'aide, l'Église intervient pour faire en sorte que ses membres puissent manger, être vêtus, avoir un abri. Dans l'Occident maintenant, ce sont les États, les nations, les gouvernements qui accomplissent cette fonction le plus souvent. Mais il m'arrive souvent, quand je voyage dans le monde en voie de développement, en Afrique en particulier, d'offrir une aide aux veuves, aux orphelins, ceux qui ne peuvent pas trouver de quoi manger autrement. L'Église intervient pour les aider. Regardons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 16. 1 Timothée chapitre 5, verset 16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Véritablement veuves, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres ressources, il n'y a pas d'autres moyens. Nous devrions nous occuper des membres de nos familles, ça c'est notre responsabilité, l'Église ne doit pas être chargée de cela, pour qu'elle puisse s'occuper de celles, les veuves et les orphelins, qui n'ont vraiment pas d'autres ressources. Et dans ce cas-là, l'Église intervient. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec quelqu'un qui était ami dans le passé, il était à la base de collège en même temps que moi, et qui est hostile à l'Église maintenant. Et il m'a nargué à un moment donné à travers un échange sur Internet. Il dit, alors, toujours dans le ministère, alors t'as pris combien de dîmes des veuves récemment? Et j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si jamais j'ai reçu de la main d'une veuve une contribution, mais si elles veulent faire une contribution, elles ont de quoi? Pourquoi est-ce qu'on dirait non? Elles ont le droit de contribuer comme tout le monde. Je ne sais pas si j'ai jamais reçu un don d'une veuve, mais je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai eu l'occasion de distribuer des centaines de milliers de dollars au nom de l'Église, à travers ma carrière, pour des veuves et les orphelins. Et là, il n'avait plus rien à dire après ça. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été la main de l'Église, de pouvoir offrir, à travers les presque 40 ans maintenant que je sers dans le ministère, des centaines de milliers de dollars en aide pour que quelqu'un puisse manger ou aller à l'école ou avoir un toit réparé et ainsi de suite. Quand il n'y a pas d'autres moyens, quand les ressources manquent, l'Église vient en aide physiquement par solidarité pour les démunis. Et ça aussi, c'est une chose que l'Église accomplit. Afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. C'est une chose que l'Église accomplit. Voilà 8 choses que la Bible nous montre que l'Église doit accomplir dans nos vies. Et ce n'est pas vraiment à nous de décider, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas cette aide-là, je ne veux pas que ceci ou cela. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est Dieu qui a établi l'Église, mais un ministère dans l'Église, pour nous aider, pour nous servir de ces différentes manières. Et ce n'est pas à nous de décider si oui ou non on accepte. On doit coopérer avec ce que Dieu a mis en place. Maintenant, le revers de la médaille. Qu'est-ce que l'Église ne peut pas faire pour nous? Il y a certaines choses que nous devons faire pour nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais que l'Église ne peut pas faire à notre place. Quels sont ces éléments-là? Premièrement, nous devons assumer la responsabilité ultime pour notre santé spirituelle. Nous sommes responsables de notre santé spirituelle et la fin de notre route spirituelle. Nous sommes responsables. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous devons assumer la responsabilité ultime pour notre parcours spirituel. Nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un d'autre pour notre chute ou pour nos faiblesses ou notre faillite éventuelle. Ça, la responsabilité repose sur nos épaules. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Être un homme, c'est justement être responsable. » Et nous sommes responsables de notre parcours spirituel, ultimement. L'Église peut nous aider, peut nous encourager, peut nous enseigner, mais de manière ultime, nous sommes responsables pour notre état spirituel et le résultat de nos vies. Ça, c'est une première chose que l'Église ne peut pas faire à notre place. L'Église ne peut pas assumer la responsabilité ultime pour notre parcours spirituel. Elle peut nous aider, elle peut nous épauler, et elle le fait, mais nous sommes responsables. Deuxième chose que l'Église ne peut pas faire à notre place. Elle ne peut pas prier, étudier la Bible ou jeûner à notre place. Ce sont des choses, des disciplines que nous devons accomplir et effectuer dans nos vies. L'Église peut prier pour nous dans le sens de prier pour une guérison ou pour une aide, mais notre croissance spirituelle dépend de nos propres prières. Personne d'autre ne peut prier pour avoir le même résultat dans nos vies. Ça, c'est une chose que nous devons faire face vis-à-vis de Dieu. Prier, étudier la Bible et jeûner. Ce sont des disciplines spirituelles, ce sont nos bouées de sauvetage et nous sommes responsables de les faire, de les accomplir. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres, Dieu dit à l'église de Philadelphie. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'église de Philadelphie était fidèle. Prier, étudier la Bible, jeûner périodiquement dans l'année, pour rester fidèle à Dieu. Ces trois éléments sont absolument nécessaires et personne ne peut les faire à notre place. Ça dépend de nous. Prier, étudier la Bible et jeûner. C'est quand la dernière fois que vous avez fait cela, que vous avez prié Dieu, que vous avez étudié profondément sa Bible, que vous avez mis de côté un jour pour jeûner afin de vous rapprocher de Dieu, de vous rappeler de notre faiblesse physique et notre besoin de l'Éternel. C'est important pour nous. Et nous devons le faire pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, l'Église ne peut pas le faire à notre place. Troisième chose que l'Église ne peut pas faire à notre place, nous repentir. Chacun doit se repentir. Ça, c'est pas une chose que quelqu'un d'autre peut faire à notre place. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça, c'est une chose que nous devons faire et nous sommes seuls capables de nous repentir pour nos propres faiblesses. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes repenti devant Dieu, que vous avez reconnu devant Dieu, là, j'ai enfreint ta loi, j'étais méchant avec un tel, ou j'ai menti, ou j'ai fait autre chose que j'aurais pas dû faire. Le repentir devrait être fréquent, puisque nous tombons tous. Nous devons nous repentir. Il y avait un prédicateur américain, il y a deux siècles de cela, qui a dit ceci. On a dit qu'à la guerre, la providence est du côté des régiments les plus forts. Mais moi, j'ai remarqué que la providence est du côté des têtes claires et des cœurs honnêtes. Et chaque fois qu'un homme marche fidèlement dans les voies de Dieu, que Dieu lui a tracées, la providence, comme disent les chrétiens, la chance, comme disent les païens, sera du côté de cet homme. À long terme, vous découvrirez que la providence de Dieu est en faveur de ceux qui observent ses lois et contre ceux qui les enfreignent. Nous devons avoir une grande sensibilité à la loi et à la volonté de Dieu pour traiter les autres avec l'amour et l'estime que nous devrions le faire. Et quand nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés, que nous avons enfreint la loi de Dieu, nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu, créer un plan pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs dans l'avenir. Chacun doit se repentir de ses propres péchés. Si nous ne nous repentons pas, nos péchés ne seront pas pardonnés et resteront sur notre compte. Et ça, c'est une chose que nous ne voulons absolument pas. Quatrième chose que l'Église ne peut pas faire à notre place, que nous devons faire pour nous-mêmes, penser ou, en termes bibliques, méditer. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas beaucoup dans la vie. Ils vivent des vies accidentelles. Ils tombent dans ceci, ils tombent dans cela. Ils tombent dans un métier, et ils tombent dans une éducation, ils suivent tel cours. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Dans la vie de tous les jours, c'est grave, mais c'est encore plus grave quand il est question de notre vie spirituelle. De vivre une vie spirituelle accidentelle est mortelle, finalement. Nous devons méditer. Nous devons méditer la loi de Dieu. Nous devons mesurer nos vies contre ce que Dieu nous dit dans sa parole pour savoir est-ce que je réussis, est-ce qu'il y a la croissance, est-ce que je ressemble davantage à Dieu qu'il y a un an, ou 5 ans, ou 10 ans. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Méditer la loi de Dieu, ça veut dire qu'il faut connaître la loi de Dieu pour pouvoir la méditer, ensuite réfléchir profondément. On veut éviter la voie des pécheurs et aussi éviter la compagnie des moqueurs, des critiques, qui veulent se moquer des autres, qui se moquent et qui critiquent d'autres personnes, des frères et sœurs peut-être, pour se faire sentir supérieur ou pour différentes raisons qui sont communes à la nature charnelle que nous avons tous, de se moquer, de ridiculiser, de critiquer les autres. Ça, c'est pas ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas le temps de critiquer, de nous moquer d'autres. Il nous reste à peine le temps vraiment de méditer la parole de Dieu. Et c'est ça qui compte le plus. L'Église ne peut pas penser à notre place. Elle ne peut pas méditer pour nous. Elle peut nous aider, nous épauler, elle peut nous livrer les sujets de méditation d'autres personnes, les orateurs par exemple, les écrivains. Mais nous avons besoin, si nous voulons croître personnellement, nous devons méditer personnellement, réfléchir à la loi de Dieu et notre application de cette loi. Ça, c'est une quatrième chose que l'Église ne peut pas faire à notre place, que nous devons faire pour nous-mêmes. Cinquièmement, l'Église ne peut pas discerner à notre place. L'Église peut nous aider à croître dans le discernement, peut nous livrer certains discernements de la part d'autrui, mais chacun est responsable de discerner entre le vrai et le faux. Nous avons été testés à cela à travers les dernières quelques décennies, décider dans quelle association nous voulons aller, comment nous devons faire, et nous serons testés là-dessus dans l'avenir également. Il est important de demander à Dieu de nous aider à avoir le discernement, mais nous devons pratiquer cette voie de discernement également. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 14. En parlant de la maturité spirituelle à laquelle nous devons tous aspirer, l'écrivain dit « La nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le discernement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ce n'est pas toujours évident au début de distinguer, de discerner la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça peut sembler être logique, c'est acceptable. Parfois, c'est seulement après que nous nous rendons compte. Ah là, j'aurais dû voir que ce chemin-là n'allait pas me mener dans la bonne direction. Le discernement. Le jugement est exercé par l'usage, nous apprenons par l'expérience, et en observant les expériences des autres, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Parfois, c'est évident, mais parfois, ce n'est pas si évident que ça au début. Nous devons croître dans le discernement. Revenons quelques versets en arrière, Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous devons savoir juger nos sentiments et les pensées de notre cœur, parce que le cœur peut être tortueux par-dessus tout. La Bible nous le dit. Il est méchant, notre cœur. Qui peut le connaître? C'est seulement par l'expérience, c'est en comparant avec la parole de Dieu, en méditant, pour pouvoir discerner. Et ça, c'est une chose que nous devons faire pour nous-mêmes. L'Église ne peut pas faire ça à notre place. Sixième chose que l'Église ne peut pas faire à notre place. L'Église ne peut pas empêcher une racine d'amertume de s'installer dans nos cœurs. Et cela a détruit les vies de beaucoup de chrétiens de par le passé. L'Église ne peut pas empêcher une racine d'amertume de s'installer dans nos cœurs. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. ainsi qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons produit du trouble, et plusieurs peuvent être affectés, infectés et affectés. Ça, c'est le problème avec une racine d'amertume. Ça ne nuit pas seulement à nous-mêmes, ça peut nuire à notre entourage. Ils peuvent être infectés également et devenir amers. Alors nous devons veiller à cela. C'est à chacun de nous d'empêcher une racine d'amertume de s'installer dans nos cœurs. Et il y aura des raisons, puisque nous sommes des êtres humains. Il y aura des erreurs. On ne va pas être traité parfaitement par tout le monde. Si on accepte, la racine d'amertume va nous infecter et va croître. Et plusieurs finiront par être affectés. Ça, c'est une chose que nous devons faire pour nous-mêmes. Empêcher toute racine d'amertume où on devient amer, négatif, critique, ça, ce n'est pas une bonne santé spirituelle, bien au contraire. Septièmement et avant-dernière chose que nous devons faire pour nous-mêmes, que l'Église ne peut pas faire à notre place, c'est vaincre. Vaincre, surmonter la faiblesse et le péché. Personne ne peut faire cela à notre place. L'Église ne peut pas le faire à notre place. Nous devons faire cela par nous-mêmes. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Apocalypse chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre le monde qui va dans le mauvais sens, le monde sous l'emprise de Satan. Nous devons vaincre les tentations de notre nature humaine. Nous devons vaincre. Et personne ne peut faire ça à notre place. Nous devons vaincre les tentations de Satan, vaincre les tentations du monde et vaincre les tentations de notre propre nature humaine. Tous ces trois éléments nous poussent dans le mauvais sens. Et c'est une lutte pour les surmonter et pour les vaincre. Et nous devons accomplir cela. Et nous devons le faire pour nous-mêmes. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et finalement, dernière chose que l'Église ne peut pas faire à notre place, que nous devons faire chacun individuellement, c'est persévérer. Persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de nos jours. Malheureusement, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous avez vu des gens qui ont abandonné la foi. Ils ont abandonné leur engagement vis-à-vis de Dieu. Ils sont retournés dans le monde comme ils étaient avant. Ils n'ont pas persévéré. Et ça, c'est une chose que chacun de nous, nous devons le faire pour nous-mêmes. Personne ne peut persévérer à notre place. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Encore une fois, en parlant aux Philadelphiens, l'Église de Philadelphie. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Nous devons persévérer. Commencer la voie chrétienne, c'est très important, c'est critique, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer et persévérer jusqu'à la fin. Et là, nous recevrons la récompense. Alors voilà, frères et sœurs, 8 choses que l'Église doit faire pour nous, et nous devons permettre à l'Église d'accomplir cette fonction, puisque ça vient de la part de Dieu, mais aussi 8 choses que nous devons faire pour nous-mêmes, que l'Église ne peut pas faire à notre place. L'Église organise nos activités collectives et notre culte. Elle nous fournit un soutien doctrinal. Elle nous fournit une instruction spirituelle. Elle nous fortifie spirituellement. Elle nous réconforte et nous encourage. Elle nous fournit une protection spirituelle à travers l'activité du ministère. Elle nous offre l'onction et les prières d'intervention de la part d'autres frères et sœurs. Et, dans des cas extrêmes, elle nous offre une aide physique et de la solidarité. Et ça, nous le faisons tous les ans pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. En revanche, il y a une chose que l'Église ne peut pas faire à notre place, et nous devons veiller à le faire. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire dans nos vies. Nous devons assumer la responsabilité ultime de notre vie spirituelle et les résultats de notre vie. Nous devons prier, étudier la Bible et jeûner. Personne ne peut le faire à notre place. Nous devons nous repentir à chaque fois que nous nous rendons compte que nous ayons transgressé une loi de Dieu. Nous devons penser, méditer la loi de Dieu, méditer nos vies. Nous devons discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Nous devons empêcher à toute racine d'amertume de s'installer en nous. Nous devons vaincre Satan, le monde, notre nature humaine. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Dieu veille à notre croissance. Il nous aide à travers l'Église pour certaines choses. Il nous aide à travers son Saint-Esprit pour d'autres choses. Et nous devons coopérer, permettre à Dieu, à travers son Église, de nous servir par les moyens que nous avons vus aujourd'hui. Et nous devons veiller aussi à faire ce que nous, seulement nous, pouvons faire dans nos vies. C'est ainsi que nous aurons des vies réussies et que nous emporterons finalement avec l'aide de Dieu la victoire ultime.